Donc ce matin, vous avez eu une instruction qui portait sur la grâce sanctifiante et à la racine, je dirais, de toute notre vie intérieure. Et donc, dans le prolongement de cette conférence, je voudrais faire une conférence cet après-midi sur la femme catholique dans ses rapports intimes avec Dieu. Donc, je voudrais vous faire réfléchir à la nécessité pour vous, en tant que femme catholique, d'entretenir des rapports intimes, profonds, avec Dieu. On peut dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'Église compte sur vous. Elle compte sur vos vertus, sur votre dévouement, et quand il le faudra peut-être un jour, elle compte sur votre héroïsme. Elle compte sur vous dans la famille, elle compte sur vous dans le monde, et elle compte sur vous aussi dans les œuvres charitables. Mais maintenant, pour être à la hauteur justement de votre vocation, de votre mission, vous avez besoin de remplir votre âme de Dieu. C'est certain que plus on réfléchit à ce que nous sommes et à ce qu'est Dieu, nous comprenons que la véritable force qui nous sera donnée pour accomplir tous nos devoirs nous sera donnée par Dieu. Et donc parce que le bon Dieu attend beaucoup de vous, vous avez besoin de vivre toujours plus près de lui. Il est certain, voyez, que plus l'homme s'écarte, vit loin de Dieu, et plus il fait des bêtises. Voyez. Plus l'homme vit loin de Dieu, et plus il plonge dans le vice. C'est l'expérience qui le montre. Eh bien, l'inverse est aussi vrai. Plus l'homme vit près de Dieu, et plus il pourra vivre de façon vertueuse. Donc le grand moyen de vivre de façon vertueuse, et le bon Dieu veut que nous vivions de façon vertueuse, notre nature humaine même est faite pour cela, je le disais hier, nous sommes faits pour vivre donc selon les vertus sont là pour développer le meilleur de nous-mêmes, pour vivre de façon vertueuse, nous avons besoin de rapports intimes, je dis bien intimes avec Dieu. Donc vous avez besoin de rapports intimes avec Dieu. Le premier motif, c'est déjà parce que vous avez une âme. Et on peut dire que notre âme est faite essentiellement pour Dieu. Pensons que Dieu est le tout de l'âme séparée du corps. À savoir que quand on va mourir, justement, quand on va paraître devant le bon Dieu, il ne restera plus que notre âme et Dieu. Eh bien, notre âme, en ce moment-là, comme je vous le disais hier, s'élancera spontanément vers Dieu. Et soit nous serons absolument purs de toute souillure, et nous pourrons être intimement unis à Dieu, ou soit il y aura encore une partie de nous à purifier, et en ce moment-là, il y aura la toilette de l'âme qui est le purgatoire, pour que nous puissions ensuite vivre dans cet enlacement de notre âme avec Dieu. Nous sommes faits pour cela. Donc Dieu est le tout de l'âme séparée du corps. Mais dès ici-bas, nous sommes faits pour Dieu. Et c'est ce qui fait que saint Augustin, qui malheureusement avait cherché au début le bonheur ailleurs qu'en Dieu, il a eu cette réflexion, « Vous nous avez fait pour vous, Seigneur, et notre âme est inquiète tant qu'elle ne repose pas en vous. » Donc c'est vrai qu'il existe une certaine paix, il peut exister une certaine paix en dehors de Dieu. Mais c'est une paix qui est fausse en partie et une paix qui est en partie illusoire. Mais la vraie paix, une paix profonde de notre âme, qui est en quelque sorte une anticipation déjà du vrai bonheur, ne peut exister qu'en Dieu. Et elle n'existera parfaitement qu'au ciel, cette paix, parce que tant qu'on est sur la terre, il y a encore des combats. Mais dès ici-bas, une âme généreuse, à certains moments en tout cas, éprouve cette paix profonde. Il y a un passage d'un psaume que nous avons dit ce matin, nous les prêtres, à l'office de matine, où c'est le bon Dieu en fait qui parle. Et il dit ceci, ou c'est plutôt nous qui parlons en parlant du bonheur du ciel que nous aurons, que nous éprouverons. Satiabor cum apparuerit gloria tua. Je serai rassasié lorsqu'apparaîtra votre gloire. Donc nous serons rassasiés lorsque nous pourrons contempler Dieu face à face. Mais dès ici-bas, nous pouvons, par la fidélité à nos devoirs et aussi par la prière, nous pouvons arriver à avoir une certaine paix, et même une paix certaine. Et en lisant un petit peu les auteurs qui ont parlé de la prière, qui ont parlé de l'union à Dieu, qui ont aussi parlé de la place de la femme, et on s'aperçoit que les auteurs qui ont peut-être mieux approfondi donc la nature de la femme et donc la vocation de la femme, ont pu dire que la femme, plus que l'homme, d'une certaine manière, plus que l'homme, est faite pour Dieu. Et spécialement, je vais vous lire ici un passage du pape Pie XII. Alors bien sûr que les hommes, comme les femmes, sont faits pour le bon Dieu, on est tous faits pour le ciel. Mais pourquoi alors que le pape Pie XII dit que les femmes sont faites davantage presque encore pour Dieu? Eh bien écoutez ce qu'il disait aux organisations catholiques féminines, il s'agit d'une allocution du 29 septembre 1957. Voici ce que disait donc le pape. La vérité la plus méconnue des hommes d'aujourd'hui, et cependant la plus fondamentale pour vous, est la relation de la femme à Dieu. La femme vient de Dieu, elle lui doit son existence, les caractéristiques de son être, de sa tâche terrestre, et la destinée éternelle qui couronnera l'accomplissement fidèle de sa mission. Vous connaissez l'enseignement catholique sur l'origine de l'homme et de la femme. Dieu les créa tous les deux à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire des êtres intelligents et libres, capables de le connaître, de l'aimer, capables aussi de se perpétuer, de dominer la création et de l'utiliser pour leur bien propre et leur service. Aussi, le sens de la vie humaine peut-il se résumer d'un seul mot : chercher Dieu. Chercher celui qui, incessamment, appelle à lui sa créature pour la combler toujours davantage de la plénitude de sa vie et de son amour. Quelle attitude adopte l'homme moderne à l'égard de cette vérité fondamentale de l'origine divine de l'homme et de la femme? Vous le savez, l'idée de Dieu apparaît comme superflue dans un monde tombé aux mains de l'homme, au pouvoir de la science et de la technique, et d'où l'on a éliminé les croyances encombrantes et les superstitions. Cette atmosphère d'athéisme menace plus gravement la femme que l'homme, tant dans sa vie personnelle que dans son rôle social. Alors pourquoi le pape dit que la femme est encore davantage menacée que l'homme, aussi bien dans sa vie personnelle que dans son rôle social, par l'atmosphère d'athéisme dans lequel on vit? Eh bien, tout simplement, parce que, je le laissais déjà entendre hier, la mission principale de la femme, elle est conçue pour cela, même si ensuite toute femme n'est pas appelée à mettre un enfant au monde, mais elle est au départ programmée pour cela, je dirais. Eh bien, toute femme en soi est programmée pour la vie. La femme, elle a été conçue pour cela. Toute sa physiologie, toute sa psychologie, tout son être est orienté vers la vie, la transmission de la vie. Mais la transmission de la vie, vue par Dieu, ce n'est pas uniquement la transmission de la vie physique. C'est aussi, et même peut-être, oui, c'est autant, et peut-être même davantage, la transmission de la vie spirituelle. Et c'est, on constate par exemple qu'une femme a en général plus facilement que l'homme des dons pour transmettre cette vie spirituelle aux enfants. Je vous ai dit que hier, en reprenant donc ce que disent encore aussi les auteurs qui ont bien approfondi toute la mission de la femme, que le rôle de la femme, c'est spécialement donc d'éduquer les enfants et spécialement de s'occuper des petits. Elles sont faites pour cela. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, le monde cherche à arracher le plus tôt possible l'enfant de la femme. Dès l'âge de 2 ans, on faut tout de suite le mettre à la crèche pour le détacher de sa mère. Mais la femme, au départ, elle est faite pour transmettre la vie et transmettre les choses de Dieu. Et justement, parce qu'elle est faite pour cela, le bon Dieu lui a donné des dons particuliers pour rendre sensibles les choses spirituelles. La femme, par un geste, par un mot d'affection, par un regard, par sa façon d'être, Elle est capable d'exprimer des choses spirituelles d'une façon sensible. L'homme, il raisonne davantage. L'homme, il est plus à l'aise dans le monde des idées. La femme est plus sensible. Et donc, elle pourra faire en sorte, comme l'enfant est très sensible, elle pourra faire en sorte de faire passer le message, eh bien, selon le niveau de l'enfant. Elle est faite pour cela. Et elle a des dons pour cela. Et c'est la raison pour laquelle on peut dire, puisqu'elle est spécialement programmée pour communiquer la vie spirituelle aux enfants, et spécialement aux petits-enfants au départ, après il y a un relais qui sera pris par les prêtres et par d'autres personnes, eh bien l'athéisme la menace encore davantage que l'homme. Parce que l'athéisme va dans un sens complètement opposé du fond de sa nature. Voyez. Donc vous avez besoin de rapports intimes avec Dieu parce que vous avez une âme. Et vous avez besoin aussi de rapports intimes avec Dieu parce que vous avez une conscience. Et votre conscience vous révèle à la fois votre faiblesse et votre devoir. Faiblesse, là, qui ne touche pas uniquement les femmes, mais sûr, qui touche aussi les hommes. Mais puisque c'est à vous que je parle, c'est pour ça que je le dis. Nous sommes tous faibles, nous nous en parlions hier. Donc notre imagination nous joue des tours, notre raison est facilement obscurcie, notre cœur est facilement entraîné en dehors du devoir. Nous avons du mal à accepter la loi de la souffrance, nous nous laissons facilement prendre au piège du découragement. Donc voilà toutes nos faiblesses. Alors quand on est jeune, eh bien on a souvent de bons désirs et on pense qu'on pourra arriver à la sainteté d'un coup d'aile. Mais après, ben, avec le temps dans la vie, on s'aperçoit que ce n'est pas si facile de déraciner tous nos défauts. Et donc nous avons donc notre conscience qui nous fait voir notre faiblesse et notre conscience qui nous fait voir notre devoir. Et donc justement, il y a comme un décalage entre notre devoir et nos faiblesses. Donc on voit qu'on est, on n'est pas exactement au niveau de ce qu'on voudrait faire. Et même il y a souvent par exemple un décalage entre ce qu'on dit au bon Dieu dans la prière et ce qu'on fait après dans la journée. Et pourtant, nos prières ne sont pas forcément hypocrites. Quand on dit au bon Dieu qu'on l'aime, qu'on veut l'aimer, qu'on veut l'aimer toujours davantage, j'espère en tout cas que ce n'est pas un mensonge, c'est vraiment un réel désir. Mais en raison de la faiblesse de notre volonté, notre vie est rarement au niveau de nos désirs. Notre désir est bon, mais ensuite notre vie concrète n'est pas toujours à la hauteur de nos désirs. Et donc nous avons besoin de Dieu parce que nous avons cette conscience qui nous rappelle nos devoirs. Et puis vous avez besoin de Dieu aussi parce que votre âme est une source. Et donc c'est vrai que c'était déjà un petit peu ce que je laissais entendre tout à l'heure lorsque je vous rappelais le rôle de la femme qui est de transmettre aux enfants non seulement la vie naturelle mais la vie spirituelle. Donc écoutez ce que dit encore le pape Pie XII dans la même allocution du 29 septembre 1957. Il dit ceci. Par ses dispositions innées, donc ça veut dire que c'est vraiment inscrit dans votre nature, par ses dispositions innées et la fonction à laquelle sa nature la destine, la femme est davantage en harmonie avec les récoltes spirituelles. Elle les perçoit plus aisément, les rend sensibles aux autres, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ce secret de rendre les choses spirituelles sensibles, en particulier à ceux dont elle a la charge. Et pourquoi il ajoute en particulier à ceux dont elle a la charge? Eh bien là, c'est encore en raison d'une autre inscription dans votre nature qui est l'amour maternel. En raison de cet amour maternel, eh bien, vous avez cette capacité, spécialement, donc en tant que mère, de transmettre à vos propres enfants, eh bien, ces trésors du bon Dieu. Alors maintenant, bien sûr, que des femmes sont célibataires, des femmes ensuite, après, se consacrent totalement au bon Dieu, il n'empêche que leur nature reste la même, à savoir qu'elles ont quand même une nature féminine, et en même temps aussi, ont ces dons de la nature qu'elles devront chercher à transmettre d'une autre manière. Ça peut être, par exemple, en s'occupant de malades, en s'occupant d'autres enfants, en étant institutrice, en s'occupant auprès de même d'autres personnes, même des personnes âgées ou autres. Mais ce sera toujours ces dons qui seront mis en action pour faire passer le meilleur d'elles-mêmes. Voilà. Donc au départ, c'est important de bien connaître le fond de votre vocation pour être à la place que le bon Dieu attend de vous. Et donc une femme, par exemple, qui n'exerce jamais une fonction maternelle, vous voyez, d'une manière ou d'une autre, hein, par exemple même une religieuse pourra le faire par la prière, en priant, donc elle pourra s'offrir pour le salut des âmes, en priant aussi pour les personnes, donc sa maternité pourra s'exercer de cette manière-là. Mais une femme qui ne cherche pas à exercer sa maternité ou physique ou spirituelle d'une manière ou d'une autre, eh bien ne pourra jamais être pleinement, je dirais, épanouie en tant que femme. Il lui manquera quelque chose, parce que c'était au départ, ce n'est pas le fond de sa nature. Oui. Même si ensuite, après, par des circonstances, ça peut être plus difficile dans certains cas. Mais vous êtes quand même faite pour cela. Et quand une jeune fille doit choisir par rapport à son devenir, eh bien, quand elle sait par exemple qu'elle ne se mariera pas, vaut mieux qu'elle choisisse toujours un métier qui sera en rapport avec cette nature maternelle. C'est évident. Enfin, pour moi, c'est évident. Alors maintenant, quelle doit être votre piété? J'ai dit que vous avez besoin donc de relations intimes avec Dieu, parce que vous avez une âme, parce que vous avez une conscience, et parce que votre âme est une source. Quelle doit être alors votre piété? Quand on pense à la piété, on pense souvent à un certain nombre de prières à réciter, ou d'actes de dévotion donc à pratiquer. En réalité, la piété ne consiste pas avant tout dans un certain nombre de formules à réciter, de prières à réciter ou d'offices à suivre. La piété est avant tout une disposition intime de l'âme. Donc c'est une disposition intime de l'âme, une orientation profonde de l'âme qui vous unit à Dieu et vous conduit à agir sous son influence. Il faut que le principe de vos actions, ce soit eh bien, ce que le bon Dieu attend de vous. Quoi. Et la vraie piété, c'est cela. La vraie piété consiste à avoir ce contact intime avec Dieu de telle sorte que l'on agisse dans la vie selon ce que le bon Dieu attend de nous. Voyez. On voit bien que une fiancée, par exemple, elle a le désir de plaire à son fiancé, et donc elle a le désir d'avoir une vie qui soit conforme à ce que son fiancé attend d'elle. C'est son désir. Voyez. Et normalement, par rapport à Dieu, ça devrait être le cas. Pour avoir une vie qui soit vraiment féconde et une vie qui corresponde vraiment à ce que le bon Dieu attend de nous, il faut essayer d'avoir cette piété qui fait que nous avons toujours en arrière-fond, en nous, ce désir de plaire à Dieu. Et donc d'alimenter ce désir précisément par un contact assez régulier avec le bon Dieu. Parce que plus nous aurons un contact intime avec Dieu, profond avec Dieu, dans la prière, plus cela aura ensuite une influence, nécessairement, dans notre comportement. Donc la piété, il ne faut pas confondre la piété, la vraie piété, avec ce qu'on peut éprouver dans notre sensibilité. Parce qu'il y a des moments, vous voyez, où le bon Dieu pourra se cacher, ça fait partie, il y a des règles dans la vie spirituelle, il y a des lois qui existent, de telle sorte que le bon Dieu purifie notre âme. Donc il y a différentes étapes pour arriver du stade du débutant dans la vie spirituelle à la sainteté. Il y a différentes étapes. Et dans ces étapes, il y a des purifications qui s'opèrent. Purification qui va toucher surtout la sensibilité au début, et puis après, purification qui va toucher surtout notre intelligence et notre volonté. Parce qu'il faut que tout notre être soit purifié complètement pour arriver à la sainteté. Donc les auteurs parlent souvent des trois âges de la vie intérieure, l'âge des débutants, l'âge des avancés et l'âge qu'on appelle des parfaits. Et entre le premier et le deuxième âge, il y a cette purification de la sensibilité qui va s'opérer, avec des périodes où on pourrait être plus tenté par rapport à la pureté ou à la patience. Et puis après, il va y avoir des périodes où on sera plus tenté même par rapport aux vertus théologales. Donc ça existe, donc c'est des lois qui existent dans la vie spirituelle. Mais donc, si on est dans une période où on est généreux et on veut vraiment servir le bon Dieu, eh bien, il se peut qu'on ait des phases où le bon Dieu se cachera davantage. Par exemple, une personne qui commence à faire oraison, au début, souvent, le bon Dieu lui donne un peu de goût pour l'inciter à faire oraison, et à certains temps, après, au bout d'un certain temps, elle sentira que le bon Dieu paraîtra plus loin. Ça ne veut pas du tout dire que ces âmes-là reculent. Ça veut dire que le bon Dieu enlève petit à petit le sucre qu'il donnait au départ pour justement nous aider à avancer plus profondément. Parce que l'union la plus profonde que l'on peut avoir entre nous et Dieu est une union de volonté et non de sensibilité. Parce que Dieu est un pur esprit. Notre Seigneur est homme, mais Dieu est un pur esprit. Donc l'union la plus profonde qu'il peut y avoir entre mon âme et Dieu est une union de volonté et non pas de sensibilité. Donc au début, le bon Dieu, pour nous attirer, il nous donne ce goût sensible, vous voyez, dans la piété. Mais ensuite, c'est normal, c'est toute âme qui est généreuse connaît cela, le bon Dieu va purifier notre sensibilité et va se communiquer à nous d'une façon plus intime, plus profonde. Un peu comme un enfant, si vous voulez, eh bien, le petit enfant agit d'une façon beaucoup plus selon ses sensations, ses sentiments, que selon des principes, bien sûr, d'intelligence ou de volonté. Mais au fur et à mesure, ensuite, où il va grandir, son intelligence va se former et sa volonté également. Et donc, il agira après, s'il est fidèle à la croissance d'un être humain, il agira selon davantage son intelligence et sa volonté. Et au départ, il agit selon sa sensibilité. Et bien, au niveau spirituel, c'est à peu près la même chose, si vous voulez. Au début, il y a des sensations que le bon Dieu peut nous donner pour inviter une âme à aller de l'avant. Par exemple, une jeune convertie, ce n'est pas rare, si vous voulez, ou un jeune converti, que le bon Dieu lui donne ses grâces sensibles. Donc, assister à une première messe à Saint-Nicolas du Chardonnet, donc le dimanche, un jour de Noël. Alors, elle a vraiment l'impression d'être au troisième ciel. Ça y est, je suis une sainte, quoi. Alors, peut-être pas tout à fait encore. Oui. Et à côté de ça, vous prenez une vieille carmélite qui est là, et qui, ça fait que 50 ans qu'elle est au couvent. Elle est dans la nuit la plus noire. Si on demande laquelle est la plus proche de Dieu, eh bien, je suis désolé, c'est pas forcément la jeune convertie, quoi. Ce sera probablement la carmélite, oui. Et pourtant, elle ne ressent plus rien du tout, vous voyez. Mais si elle est fidèle à Dieu, eh bien, le bon Dieu est certainement très, très heureux de sa vie. Mais il ne le montre pas à ce stade de la vie spirituelle. Donc, ne confondons pas le goût spirituel avec le progrès spirituel. Le goût sensible, pardon, avec le progrès spirituel. Et ne confondons pas non plus la sécheresse spirituelle avec le recul spirituel. Il se peut parfois, c'est vrai, que le bon Dieu se cache lorsque nous manquons de générosité. Ça, c'est vrai. C'est sûr que si on se laisse aller à certains désordres, il ne faut pas s'attendre après à recevoir des câlins du bon Dieu le lendemain matin dans l'oraison. Hein. Ça, c'est sûr. Si on reste le soir à regarder des choses à la télévision qui ne conviennent pas, c'est sûr que le lendemain matin, il ne faut pas s'attendre à avoir des oraisons mystiques très élevées. C'est très clair. Donc là, il y a un motif. Mais il peut très bien y avoir des moments, et même qui peuvent durer, où le bon Dieu se cache, mais c'est tout simplement dans le but de nous faire avancer davantage. Et c'est ce qui explique aussi que même des âmes qui peuvent être avancées dans la vie spirituelle, à certains moments, peuvent avoir même des mauvaises images qui peuvent leur traverser l'esprit, parfois même dans la prière, parfois même à la messe. Mais tant que, dit saint François de Sales, tant que cela vous agace, vous voyez, comme des mouches importunes qui sont là en train de vous gêner, ou des moustiques, encore pire, eh bien, en ce moment-là, c'est bon signe. Oui. Tant que ça vous agace, c'est bon signe. Si vous commencez à y trouver du goût, alors là, c'est sûr que c'est vraiment bien. Donc, il faut essayer de chasseler tout cela. Mais donc, on dit que la spécialité du démon, justement, c'est le cinéma. Donc, il peut toucher notre imagination. Alors, donc, il peut, pour essayer de bloquer notre avancement spirituel, donc nous faire du cinéma. Mais tant que le cinéma qui nous fait nous déplaît, en ce moment-là, il n'y a pas de péché. Parce que le péché est dans la volonté, non pas dans la sensibilité. Maintenant, il peut y avoir parfois des fautes antécédentes. Bien sûr que si on a vu quelque chose de mauvais, et qu'après on a l'imagination qui déborde, ben, le problème ne vient pas de l'imagination en ce moment-là, peut-être, si on cherche à chasser, mais c'est quand même ce qu'on a vu auparavant, qui a alimenté notre imagination. Donc ne confondons pas sensibilité avec progrès spirituel, que ce soit dans le sens du bien ou dans le sens du mal. Donc, saint François de Sales dit ceci. Je désire grandement que l'on distingue toujours les effets de la partie supérieure de notre âme d'avec les effets de la partie inférieure et que nous ne nous éteignions jamais des productions de l'inférieur pour mauvaises qu'elles puissent être, pourvu que nous le tenions ferme en la partie supérieure pour aller toujours avant en la voie de la perfection. Et saint François de Sales disait aussi à sainte Jeanne de Chantal, qui avait donc parfois des mauvaises pensées qui traversaient son esprit, « Courage, pendant que nous pouvons dire avec résolution, quoique sans sentiment, vive Jésus, il ne faut point craindre. Et ne me dites pas qu'il vous semble que vous le dites avec lâcheté, sans force ni courage, mais comme par une violence que vous vous faites. Ô Dieu ! Mais voilà donc la sainte violence qui ravit les cieux. C'est cette volonté libre, laquelle, toute nue devant Dieu, réside dans la suprême et plus spirituelle partie de l'âme, ne dépend d'autre que de son Dieu et de soi-même. Et quand toutes les autres facultés de l'âme sont perdues et assujetties à l'ennemi, demeure maîtresse de soi-même pour ne point consentir. Donc ne pas trop vous fier à vos consolations sensibles ou ne pas trop vous fier non plus donc, aux désolations sensibles. Saint François de Sales dit encore, c'est un grand abus de plusieurs, et notamment des femmes, de croire que le service que nous faisons à Dieu sans goût, sans tendresse de cœur, sans sentiment, soit moins agréable à sa divine majesté. Car bien que nos œuvres faites avec tendreté de cœur nous soient plus agréables à nous, lorsqu'elles sont faites en sécheresse et stérilité, elles ont plus de valeur devant Dieu. Parce que notre volonté nous porte au service de Dieu comme par vive force, et par conséquent, il faut qu'elle soit plus vigoureuse et constante. Donc en Dieu, vous voyez, vouloir aimer, c'est pour Dieu, vouloir aimer, c'est aimer. Est-ce que je veux vraiment aimer Dieu? Oui, donc j'aime Dieu. Vouloir aimer, c'est aimer. Alors, que faire pour avoir cette vraie piété qui donc nous permet de rechercher la compagnie de Dieu et qui nous permet de vivre, d'avoir une vie qui soit conforme à ce que le bon Dieu attend de nous? Bien, ce qui peut beaucoup aider, c'est la lecture de bons livres spirituels et puis aussi la méditation. Donc vous aurez une instruction sur l'oraison, la méditation. Et il est vrai que c'est sûr que c'est par là qu'on pourra arriver à avoir une âme plus profonde. Et pour arriver alors maintenant à faire en sorte que nos lectures spirituelles et ce temps de méditation que nous passerons tous les jours près du bon Dieu pour intensifier notre union à lui soit efficace, nous avons besoin, et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, surtout dans le monde d'aujourd'hui, nous avons besoin de silence. Voyez. Regardez quels sont ceux qui vivent le plus près de Dieu. Ben, ceux qui vivent par état le plus près de Dieu, il y a des femmes dans le monde qui vivent le plus près de Dieu, mais ceux qui vivent par état le plus près de Dieu, eh bien, ce sont les moines. Voyez. Eh bien, il est bien connu qu'on dit que le baromètre d'un monastère, c'est justement le silence. Oui. C'est de la qualité du silence qui règne dans un monastère, on peut voir la profondeur d'union à Dieu qui réside dans ce monastère. Oui. Dans un monastère, si on imagine tous les moines qui parlent tout le temps, on se dit, ben non, là, il y a quelque chose qui cloche. On sent bien que ce n'est pas tout à fait selon l'ordre. Oui. Donc il faut, pour essayer d'avoir une vie profonde, une vie intimement unie à Dieu, on voit que dans les monastères, on cherche à vivre dans le silence. Oui. Eh bien, c'est la raison pour laquelle tous ceux qui cherchent à avoir une vie intérieure ne sont pas obligés de s'enfermer dans un monastère, comme dans le monde. C'est une autre vocation, hein. Mais il faut quand même, malgré tout, aimer le silence. Voyez. Et le fait que vous aimiez le silence est bon signe. Voyez. Le fait que vous cherchiez à fuir le silence, il y a encore sans doute des efforts à faire. Voyez. Il me semble en tout cas que c'est un... je ne dis pas qu'il faille vivre toujours dans le silence, encore une fois, comme une mère de famille avec ses enfants, on ne peut pas vivre dans le silence. Mais elle peut quand même peut-être privilégier les temps de silence pour chercher à vivre un peu plus près du bon Dieu. Mais... Alors maintenant, je vais vous lire ici des réflexions qui émanent d'une femme qui est décédée maintenant il y a une vingtaine d'années. Je l'ai bien connue parce que c'était brestoise. Elle est morte à l'âge de 44 ans. Elle était artiste, mère de famille et très profonde. Et elle est morte d'un cancer et elle a écrit des choses sur la femme parce qu'elle a eu l'occasion de faire des instructions en ce moment-là qu'elle était jeune mariée, donc des instructions à d'autres ménages, donc il y avait des réunions de ménage et les notes qu'elle a prises en ce moment-là, parce que je sais que c'était vraiment une sainte femme équilibrée, très profonde et en même temps très humaine, et donc elle a eu des réflexions que j'ai trouvées très intéressantes. Donc elle disait entre autres, le silence est nécessaire pour tous, mais il est spécialement nécessaire pour la femme, parce que la femme est faite pour le silence. Ça peut paraître paradoxal. Comment la femme est faite... Apparemment, vous ne connaissez pas la nature féminine, monsieur l'abbé. Alors c'est pour ça que je laisse parler une femme. Je me cache derrière elle. Alors écoutons-la. Pourquoi cette affirmation qui peut paraître osée ou paradoxale? Quelle preuve donner pour l'appuyer? Eh bien, si je dis que la femme est faite pour le silence, c'est parce qu'elle est faite pour le mystère. Qu'est-ce que j'entends par mystère? Je n'entends pas quelque chose d'ésotérique, mais la connaissance de quelque chose de grave, de sérieux, d'important et comme d'infini, à savoir le don de la vie. La femme est faite tout entière pour le don de la vie. La vie est un mystère. Or, vous la portez pendant 9 mois. Et si vous ne la portez pas, vous êtes apte à la porter, vous êtes programmé pour cela. Mystérieusement, c'est-à-dire que vous ne la voyez pas, mais vous la connaissez sans hésiter une seconde. Vous vivez pendant 9 mois, 24 heures sur 24, toute intériorisée sur ce mystère. C'est à cause de ces 9 mois où vous êtes faite pour le silence, pour le mystère, que vous trouvez en vous des dons particuliers. Cette intuition immédiate et globale, cette patience, ce silence si lumineux et si éclairant, cette douceur, ce privilège d'alléger, de purifier, d'équilibrer, ce privilège surtout d'éveiller purement la véritable vie. Le silence n'est pas obligatoirement l'absence de bruit, mais le refus de tout ce qui éparpille ou occupe superficiellement l'être. Le refus de toute agitation stérile. Le refus de se répandre au-dehors de soi de façon désordonnée et incontrôlée. C'est certainement une ascèse. Il faut du temps pour l'acquérir, puisque la pente naturelle de l'être humain n'y porte pas, non plus que la société ambiante. Cela suppose aussi toute une évolution de l'être entre la jeunesse, l'âge mûr et la vieillesse. Mais dès qu'on commence à posséder même seulement un peu cette ascèse, on est 100 fois récompensé par toutes les richesses qui en découlent. Pour rester sans cesse et toujours de plus en plus, plus profondément à l'écoute de ce qui peut susciter l'inspiration, pouvoir et toujours de plus en plus descendre au fond de soi pour y rejoindre l'inspiration, c'est-à-dire sa vision intérieure, enfin avoir ces deux regards simultanément parfois, à certaines heures privilégiées et toujours inattendues, que l'on ne peut jamais provoquer, on a quelquefois une sorte de grâce qui nous fait voir en un seul regard et le monde extérieur et la vision intérieure. Donc, la vision intérieure, certainement, dont elle veut parler ici, c'est la vision donc, d'une âme qui vit près du bon Dieu et donc qui sent qu'elle est là tout près de lui. Et c'est sûr que le modèle de la femme, c'est la Sainte Vierge. Oui. Et le modèle de toute femme, c'est la Sainte Vierge. J'espère que vous êtes bien d'accord avec moi. Or, certainement, vous voyez, que la Sainte Vierge, donc la femme par excellence, était une femme silencieuse, vous voyez. On a très peu de paroles de la Sainte Vierge dans l'Évangile. Voyez. Mais que de silence on peut deviner dans le cœur de la Sainte Vierge. Voyez. Que de regards silencieux sur les êtres, sur les choses, sur les événements, on peut découvrir en lisant ce qui nous est donné de la vie de la Sainte Vierge dans l'Évangile. Voyez. Donc il faut essayer de comprendre que le silence n'est pas un vide, mais une plénitude. Et pour parvenir à cela, eh bien, le secret, c'est d'apprendre à vivre plus près du bon Dieu. Voyez. Par exemple, un prêtre n'est jamais moins seul, d'une certaine manière, que quand il est seul. Voyez. Parce que quand nous sommes seuls, eh bien, nous sommes près de notre Seigneur. On peut en ce moment-là être tout à lui, en quelque sorte. Voyez. Eh bien, une femme aussi doit essayer de vivre plus près du bon Dieu pour pouvoir ensuite, après, transmettre aux autres le meilleur d'elle-même. Alors la piété, si elle est véritable, eh bien, elle est fille du silence, elle est engendrée par le silence, la vraie piété. Et on peut dire aussi que la vraie piété est fille de l'amour, et même, elle est en quelque sorte l'amour même. Donc la vraie piété va vous conduire à vous livrer à Dieu pour que le bon Dieu agisse à travers vous. Et donc la vraie piété va conduire aussi, d'une certaine manière, dans votre vie, à filtrer certainement certaines activités. Donc va vous aider à avoir une vie plus féconde, à perdre moins de temps et à aller tout de suite à l'essentiel. Que plus vous vivrez près du bon Dieu, plus vous discernerez ce qui est important de ce qui est secondaire. Donc plus vous arriverez par conséquent à... L'amour est un filtre et donc vous aidera en ce moment-là, parce que vous aimerez davantage le bon Dieu, à saisir ce qu'il attend de vous, et donc à aller à l'essentiel. Oui. Donc il ne faut pas croire que la piété véritable vous détachera de votre mari ou de vos enfants, si vous êtes marié, ou vous détachera de votre devoir ensuite d'État, quel que soit votre devoir d'État. Au contraire, c'est certain que cette piété, si elle est authentique, elle vous aidera à être encore davantage au service des âmes que le bon Dieu vous confie. Parce que le bon Dieu est un Dieu d'ordre, vous voyez. L'enfer est un chaos, le paradis est un monde ordonné, parfaitement ordonné. Vous voyez. Donc plus on s'approche du bon Dieu, plus on arrive à mettre de l'ordre dans sa tête, dans ses affections. Et c'est précisément parce qu'on a parfois du mal à mettre de l'ordre dans ses affections qu'on a aussi du mal à mettre de l'ordre dans sa tête. Parce que si notre cœur, vous voyez, est partagé entre différents amours et des amours déréglés, qui ne sont pas selon Dieu, nécessairement, on passera du temps pour des choses pour lesquelles on ne devrait pas passer de temps. Et donc, du coup, on perdra du temps, vous voyez. Tandis que si on arrive à faire en sorte d'aimer Dieu comme on doit l'aimer et d'aimer notre prochain comme on doit l'aimer, ben les choses se mettront en place. Et par conséquent, on accordera aux créatures ce qu'on doit leur accorder, pas plus. Vous voyez. Et comme il faut. Donc, on sera dans l'ordre. Donc il me semble que c'est important de réfléchir à tout cela. Dieu étant un Dieu d'ordre, plus on se rapproche de lui, plus il nous aide à mettre de l'ordre dans notre vie. Donc la piété va donner à la femme du monde d'être dévouée auprès des siens. Elle va donner à cette mère de famille cette activité puissante et paisible. Et elle va lui donner cette paix intérieure qui lui permettra donc de faire chaque chose en son temps. Saint Paul dit, et là il s'adresse lui à des fidèles, il dit que le juste vit de la foi, ex fide vivit. Ça veut dire que c'est la foi qui est le principe de sa vie. Et bien ça, ce n'est pas réservé uniquement aux prêtres ou aux religieux ou aux religieuses. C'est vrai de tout homme, voyez. Et pour cela, encore une fois, il faut vivre près du bon Dieu. Alors, quels sont les obstacles qu'il faudra vaincre pour arriver à cette piété? On peut dire qu'il y a trois obstacles principaux. Bon, il y en a plusieurs, peut-être encore d'autres, mais en tout cas, trois obstacles principaux que je décris ici, qui nous empêchent, en fait, d'arriver à cette piété qu'on désirerait avoir. Le premier obstacle, c'est l'ignorance. Et donc, d'où l'intérêt de ces conférences qui sont faites pour vous donner un éclairage plus important sur ce qu'est Dieu, sur ce que vous êtes, ce qu'il attend de vous, sur les moyens à prendre pour arriver à progresser. Donc, l'ignorance se comble par la connaissance. Donc, il faut penser que, quand bien même vous avez eu un bon catéchisme lorsque vous étiez jeune, ce qui n'est peut-être pas le cas de toutes, eh bien, la mémoire et la faculté d'oublier. Et donc, on a besoin de se retremper dans une atmosphère, enfin, de retrouver, disons, des repères. Et en plus, il y a des choses qu'on apprend quand on est enfant, mais qu'on apprend un peu superficiellement. Vous voyez. Donc, on a mémorisé une chose, mais on n'a pas forcément compris. Et donc, ensuite, après, quand on a plus de maturité, eh bien, on doit étudier davantage. Nous, prêtres, vous voyez, alors que bon, normalement, on a eu quand même 6 ans de séminaire, une formation, mais on a besoin de se retremper sans cesse dans des livres pour garder l'acquis. Et ça, c'est vrai dans toutes les professions. Hein. Prenez un médecin, il a besoin de se remettre dans les bouquins pour arriver à mieux, soit à se rappeler ce qu'il a pu oublier, et puis ensuite après être en phase, bien sûr, par rapport au progrès qui peut exister dans la science de la médecine. Alors la religion, c'est sûr, elle ne change pas. Dieu ne change pas, donc ça, de ce côté-là, c'est plus simple. Mais malgré tout, il faut quand même essayer de se remettre à niveau et ensuite après d'approfondir même ses connaissances. Donc pour arriver à avoir une piété plus profonde, il faut essayer de combler son ignorance par la connaissance. Donc d'où l'importance de bons livres pour entretenir eh bien, les vérités de la foi. C'est sûr que vous avez le sermon du dimanche, mais déjà si vous avez plusieurs enfants, parfois vous êtes obligé de sortir pendant le sermon parce que justement c'est le moment où les enfants crient. Et après, bon, les sermons peuvent être aussi parfois un peu inadaptés. Tandis que là, si vous choisissez un livre, un bon livre, prenez un livre qui vous est adapté. Enfin, si vous pouvez au moins le trouver, sinon vous demandez conseil. Ensuite, après, deuxième obstacle à la piété, c'est la dissipation. Et ça, c'est vrai que c'est un peu lié au monde d'aujourd'hui. On a tous une vie trépidante, on court toujours, on est toujours en train de courir. Et le soir, on n'a pas l'impression d'avoir fait la moitié dans ce qu'on aurait voulu faire. Bon, c'est notre pauvre vie moderne qui fait qu'il y a beaucoup d'agitation. Et donc, c'est sûr que cette dissipation est à l'opposé du recueillement. Parce qu'une âme dissipée, une âme recueillie, c'est exactement le contraire. Donc, il faut essayer de repérer ici ce qui peut être justement cause de dissipation pour arriver au recueillement. Quoi. Et donc, ce qui peut entraîner la dissipation, c'est peut-être le fait de rechercher parfois, enfin, d'avoir des passions un petit peu déréglées. Donc, rien de grand ne se fait sans passion. Donc, le fait d'être passionné, en soi, n'est pas une mauvaise chose. Il faut canaliser nos passions. Donc, le fait, par exemple, même d'aimer être bien habillé, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il ne faut pas être esclave pour autant des vêtements. Voyez. Le fait d'aimer la bonne cuisine n'est pas une mauvaise chose. Sinon, vos maris me le reprocheraient après à la retraite suivante. Non, c'est une très bonne chose, au contraire. Même pour garder un mari à la maison, il est bon d'avoir de savoir bien faire la popote. C'est bien connu. Mais ensuite, après, donc, il y a une certaine mesure donc, il faut avoir. Voyez. Donc la musique, c'est pareil, c'est une bonne détente. C'est très bien d'aimer la musique. Non, après, il y a une question de choix de musique et du temps aussi. Voilà. Donc il faut essayer de repérer, en tout cas, dans notre vie, qu'est-ce qui peut être cause un petit peu de dispersion ou de dissipation. Voyez. Ou les bavardages. Bien sûr que la femme a besoin de parler, c'est sûr. Mais, alors, parler à qui? Parler de quoi, voyez, et parler après combien de temps aussi, quand même. Donc il y a la question du... Donc là, il y a des donc peut-être parfois des efforts à faire. Oui. Donc la parole s'opposant au silence, il faut voir un petit peu s'il n'y a pas d'excès. Voilà. Et puis également, il y a le fait de aujourd'hui dans ce monde moderne, il y a tout après tous ces instruments modernes aussi, donc l'ordinateur, les portables, qui font que on a encore aussi facilement pris par tous ces moyens-là, qui sont des moyens qui peuvent être nécessaires, hein, et qui sont même bien utiles. Mais qui en soi devraient nous faire gagner du temps et qui ne nous font pas toujours gagner du temps parce que parfois on en est un peu trop dépendant. Voyez. Donc il faut toujours essayer de voir quelle est la source pour nous de notre dispersion. Et cette femme donc, qui faisait ses réflexions sur la nécessité du silence, elle disait ceci. Donc là je me cache encore derrière elle, c'est plus facile pour faire passer certains messages. Elle dit ceci en parlant des femmes les plus âgées. Il dit... Les plus sages et les plus profondes devraient être les vieilles. À force de silence, de plonger dans la méditation, dans la contemplation. Ouais. Donc là, c'est sûr que ça... Donc il y a peut-être aussi à voir. Étant reine de nos foyers, nous devons donner du silence aux autres. Donc il faut apprendre donc, à vivre dans le silence et apprendre à donner aussi du silence. Donner à tous le maximum et savoir tolérer patiemment la nature de chacun, qui est quelquefois contraire à la sienne propre et donc plus insupportable. Mais donc savoir créer, disait-elle, du silence pour sa famille, le foyer, les enfants. Et donc elle disait ceci, par exemple, faire attention à la musique. La musique de fond, disait-elle, ce n'est pas bon. Pour leur apprendre à écouter la musique, il faut qu'ils comprennent, donc elle parle des mamans qui doivent apprendre aux enfants donc à choisir leur musique, à aimer la musique. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a des moments où c'est cela que l'on fait et pas autre chose. Nous ne pourrons éduquer nos enfants à quelque chose de grand que si nous-mêmes, nous nous sommes d'abord éduqués. Et c'est à la fois parce que nous y serons passés, parce que nous connaissons intimement les tempéraments de nos petits, que nous saurons comment faire avec eux, avec l'un comme ceci, avec l'autre comme cela. La femme qui a compris l'importance du silence le recherche. On n'entend plus dire « je n'ai pas le temps ». Elle sait très bien où le trouver. Quand elle marche dans la rue, rien ne l'empêche de ne pas regarder les vitrines pour pouvoir entrer en elle. Dans la salle du génico, 3 points de suspension. Pendant la sieste des enfants, rien ne l'empêche d'agir à ses tâches ménagères dans le silence. Il y a des femmes qui privilégient, alors ça c'est une génération, parce qu'il y a 20 ans qu'elle écrivait ça. Hein. Il y a des femmes qui privilégient les heures de repassage, de raccommodage, parce qu'elles y sont silencieuses. À propos des tâches ménagères, certaines mères de famille, certains jours, ont repris le balai plutôt que l'aspirateur parce que c'est sans bruit. Ou un ouvre-boîte, un couteau à découper ou un presse-citron vieillot plutôt que l'appareil électrique dernier cri parce que ça ne fait pas de bruit. Le but n'est pas d'avoir tout le confort que nous offre le monde matériel ni de gagner du temps matériel. C'est de sauver nos âmes et si possible aussi celles qui nous entourent. À quoi sert-il à l'homme de gagner l'univers entier s'il vient à perdre son âme, nous dit notre Seigneur. Pour ça, le silence est indispensable. Et à tous ces moments de silence, on peut au moins de temps en temps tourner un regard du cœur, de l'âme vers Dieu, la Sainte Vierge, les anges, le paradis tout entier. On aura fait cela chaque jour, ce serait déjà énorme. Et on ne dirait plus à propos de la prière, c'est bien beau, mais je n'ai pas le temps. Et ça n'exige strictement aucune tension intérieure. Là, on voit que c'est une âme intérieure qui parle. Voyez. Elle dit que la prière n'exige aucune tension intérieure. Il faut que la prière devienne pour nous un repos et non pas une activité supplémentaire. Si on se dit, comment caser encore cette journée si remplie? Le chapelet, la prière du matin, la prière du soir, mais on n'en finit plus, quoi. Voyez. Non, il faut que la prière soit pour nous un temps de repos. Enfin, je vais pouvoir me reposer près du bon Dieu. Voyez. Et si la prière, c'est pour nous un temps de repos, on trouvera le temps pour cela. Voyez. Mais si on estime qu'il y a encore ça à caser, alors ça devient, c'est vrai, très lourd. Quoi, voyez. Et parce qu'elle aimait le bon Dieu de tout son cœur, cette femme, eh bien, elle en arrivait à faire en sorte que la prière soit pour elle un temps vraiment privilégié où elle se dit, enfin, je vais pouvoir souffler un petit peu près de notre Seigneur. Voyez. Je vais pouvoir reposer ma tête sur le cœur de notre Seigneur comme Saint Jean. Et puis enfin, le dernier obstacle alors à cette piété, c'est en plus de l'ignorance, donc des vérités de la foi, de cette dissipation qui fait qu'on est trop superficiel, les répugnances de notre volonté. Notre volonté peut répugner à ce silence. Pourquoi cela ? Eh bien, en raison du péché qui est en nous et en raison aussi de la douleur, de la souffrance qui nous empêche aussi d'avoir cette donc, réelle vie intérieure. Donc, c'est sûr que Dieu et le péché ne peuvent pas cohabiter. Donc, on ne peut pas à la fois aimer Dieu et le péché. Donc, si on est dans le péché, on n'est plus près du bon Dieu. Il faut choisir. Mais le bon Dieu qui nous aime infiniment, donc dès que nous reconnaissons nos péchés, le bon Dieu nous attire de nouveau à lui. Donc on l'a entendu, donc Mgr Lefebvre disait dans cette lecture de table qu'il a été dit à Marie-Madeleine, beaucoup de péchés lui sont remis parce qu'elle a beaucoup aimé. Donc il faut se dire que le bon Dieu est toujours prêt à nous rapprocher de lui. Mais parfois, l'âme qui est dans le péché, ben, elle aime un peu le péché, donc elle est un peu ficelée. Elle est comme enlacée dans son péché. Enlacée dans le sens où elle est attirée par le péché, et donc elle a du mal à s'en sortir, quoi. Donc le terme d'enlacée montre bien qu'elle est comme esclave du péché, c'est ce que dit saint Paul, celui qui commet le péché est esclave du péché. Ou parfois, sans qu'elle soit complètement enlacée par une passion déréglée, elle a au moins une trop grande faiblesse de volonté. Si bien qu'elle voudrait bien, quoi, mais elle ne se sent plus capable. Quoi. Et donc c'est là qu'il faut soit une retraite qui fait beaucoup de bien pour essayer à se détacher, ou sinon eh bien, penser que le bon Dieu est toujours là, est toujours prêt à nous aider à repartir d'un bon pied. Donc un jour, Sainte Catherine de Sienne a eu une tentation où elle se disait n'importe comment, je crois que la vertu n'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, et là, pour moi je suis foutu. Quoi. Et tu es foutu. Et donc, en ce moment-là, c'est le démon qui lui est apparu et qui lui a dit, n'importe comment, quoi que tu fasses, tu es foutu. Alors, en ce moment-là, elle a eu ce réflexe de dire, mais si quoi que je fasse, je suis foutu, en ce moment-là, ce n'était pas la peine de te déplacer pour me le dire. Donc, c'était certainement pas le bon Dieu qui lui disait cela. Ouais. Donc, si nous avons le poids du péché donc, qui nous accable, pensons que le bon Dieu est toujours prêt à nous repêcher. Et puis, une autre chose qui, parfois, donc, nous empêche d'avoir cette piété, c'est le fait de la souffrance. Donc, il y a parfois, donc, notre nature est blessée, donc, parce que nous avons une souffrance mal digérée, qui nous empêche d'avoir la sérénité, et donc qui nous empêche d'avoir la vraie piété. Une déception cruelle, un souvenir douloureux, une ambition incontrôlée peuvent aussi empoisonner nos existences. Donc dans toute vie, il y a des déceptions et des douleurs. Et le problème, c'est qu'on a du mal à les accepter. Et tant qu'on n'a pas vraiment accepté, accepté dans le sens de... donc ça ne veut pas dire qu'on accepte le mal en lui-même, mais on a accepté cette souffrance. La souffrance liée à ce mal. Une fois qu'on l'a vraiment accepté, à ce moment-là, après, on peut redémarrer. Tout ce qui est souffert doit être offert. Une souffrance qu'on n'a pas réussi à offrir, elle nous replie sur nous-mêmes, elle nous conduit à nous replier sur nous-mêmes, et en ce moment-là, on broie du noir et on est dans le négatif, et ça ne va pas. Donc il faut arriver à essayer d'évacuer tout cela. Et donc parfois, on peut avoir du mal à avoir cette vie intérieure à cause de cela, parce que on a notre existence qui a été empoisonnée par cela. Donc pourquoi y a-t-il tant de vies qui végètent ? Ce n'est pas forcément en raison de nos souffrances et de nos douleurs, mais c'est de la difficulté que nous avons à les accepter. Bon, il y a ceux qui se révoltent, mais parfois, sans se révolter, on n'accepte pas. Donc, on subit de mauvaises grâces. Et ce qu'on subit de mauvaises grâces, avec l'amertume dans le cœur et le murmure peut-être sur les lèvres, cela ne peut pas nous élever vers Dieu. Voyez. Et donc, ça nous empêche d'avoir cette vraie liberté. Donc, il me semble qu'il faut profiter de la retraite pour repérer s'il y a des choses en nous que nous n'avons pas comme ça bien digérées, pour purifier tout cela et pour repartir après d'un bon pied. Donc, est-ce qu'on est capable vraiment de dire de notre Père jusqu'au bout, avec le « pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », non pas uniquement du bout des lèvres, mais vraiment du fond du cœur. Et donc, le grand mystère restera ici, le mystère de la croix. Et ce qui va nous aider à accepter notre propre croix, c'est de regarder la croix de notre Seigneur. En voyant tout ce qu'il a souffert, lui, pour nous, en ce moment-là, ça nous rend plus généreux pour accepter la part de croix que le bon Dieu nous donne. C'est certain que si notre Seigneur nous apparaissait pour nous dire « Voudrais-tu porter une part de ma croix ?» Alors, j'espère qu'on lui dirait oui. Il faut se dire que la part de croix, c'est précisément ce qui, dans notre vie, nous a fait souffrir. Tout a valeur de croix pour qui à la fois, parmi tout ce qui peut nous diminuer, nous être pour nous cause de mal, physique, moral, spirituel. Et puis aussi, ce qui doit nous aider à accepter notre part de croix, c'est justement d'apprendre à ne pas nous comparer aux autres. On regarde un peu dans le champ du voisin et qui paraît mieux loti que nous. On raconte qu'il y avait comme ça une personne qui, on avait assez de sa croix, et puis donc un jour, le bon Dieu lui apparaît, ou un saint lui apparaît de la part de Dieu, en lui disant, puisque tu n'es pas content avec ta croix, tu vas aller au cimetière qui est là, il y a des tas de croix, donc choisis celle que tu veux. Alors chic, alors je vais, ouf, il enlève sa croix, il en prend une autre, il dit, celle-là me semble aller bien. Puis au bout d'un moment, celle-là, ça ne va plus du tout, c'est encore pire. Après, on lui donne une deuxième, et puis, mais celle-là, non, c'est surtout pas. Celle-ci me semble pas mal. Ça va pas non plus. Et puis finalement, à la fin, il trouve une. Celle-là, elle est vraiment proportionnée. Et là, il se rend compte que c'est finalement celle qu'il avait avant. Le bon Dieu sait mieux que nous ce qui nous convient. En conclusion, pour cette conférence, je dirais, vous avez besoin de Dieu. Lui seul peut répondre pleinement aux cris de votre âme, aux anxiétés de votre conscience, aux détresses particulières que vous pouvez connaître, mais vous ne pouvez le posséder ni contracter avec lui une alliance si nécessaire qu'en vous établissant dans la lumière, dans la résignation et dans la paix. Et donc le but de la retraite, c'est précisément de vous aider à vous établir dans la lumière pour éclairer vos intelligences, dans la résignation pour fortifier votre volonté, et également dans la paix pour que vous puissiez donc demeurer dans cette sérénité. Nous allons nous rendre maintenant à la chapelle pour demander au bon Dieu, justement, de nous mettre dans ces bonnes dispositions.